CQFD.
Dans CQFD, on va partir dans une salle d'opération grâce à un sujet de Lucille Solari que nous vous proposons en nouvelle diffusion.
Vous avez votre musique avec vous. Et puis tranquillement, autour de vous, tout le monde s'installe. Je vais prendre votre bras pour installer le goutte à goutte. Et puis pendant toute cette préparation et toute l'intervention qui va suivre, ma voix vous accompagne. Peu à peu déjà, vous entrez à votre rythme dans cet espace particulier de détente. La veine est bien ouverte et le goutte à goutte est en place pour votre sécurité. Peu à peu, cette anesthésie locale qui s'installe là maintenant et qui brûle légèrement, endort la place.
Avant
locale.
Qu'on s'endorme, Lucille Solari, ça peut paraître étonnant, mais là, on était dans une salle d'opération.
Oui, et plus exactement à l'hôpital cantonal de Genève. Et il s'agit en l'occurrence d'une opération du talon. C'est un extrait d'un reportage signé Francine Delcozo pour le magazine De quoi je me mêle, que je remercie d'ailleurs de nous avoir prêté cet extrait. Et cette opération du talon, normalement, exige une anesthésie complète, une anesthésie générale. Or, la voix que vous avez entendu est celle du docteur Nicole Chezeau, médecin anesthésiste qui pratique sur cette patiente une hypnosédation.
Hypnosédation, ça veut dire, vous le dire, qu'on opère cette dame à vif sous hypnose.
Alors non, pas exactement. L'hypnosédation combine en fait une technique d'hypnose et une sédation plus classique, on le verra dans quelques instants. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que la chirurgie est en effet l'un des domaines de la médecine où l'hypnose peut s'appliquer de manière efficace, mais ça n'est pas la seule.
Alors vous nous disiez que l'hypnosédation, c'est un peu d'hypnose et un peu de sédation quand même.
Absolument. Pour comprendre, j'ai rencontré le docteur Edith Brandao-Farinelli, également anesthésiste au HU. Elle est l'une des quatre anesthésistes qui pratiquent l'hypnosédation.
Quand on parle d'hypnosédation, c'est un mot valise, un mot formé de deux termes. Dedans, il y a hypnose et il y a sédation. Sédation, ce sont de toutes petites doses de médicaments qu'on utilise aussi pour une anesthésie générale. Donc, un sédatif associé à un médicament antidouleur, mais qu'on va donner vraiment à de minuscules doses qui permettent au patient d'être confortable tout en restant assez éveillé pour pouvoir suivre en même temps l'hypnose. L'hypnose qui va lui permettre de s'évader du contexte de la chirurgie. La zone de la chirurgie va, elle, au niveau des douleurs, être prise en charge par une infiltration d'anesthésique locale.
Bon, si je résume, une anesthésie locale, une sédation, finalement, on n'est pas vraiment loin de la narcose classique, Lucille. Quelle différence y a alors ?
Alors d'abord, les dosages de produits infiniment plus modestes que dans une narcose classique. Et puis surtout, ce qui change, c'est le rôle du patient.
Un patient qui a une anesthésie générale pour une chirurgie, entre guillemets, il l'a subi. Un patient qui participe à une hypnosédation pour une chirurgie, il va participer, il va être acteur principal. Il a son rôle à jouer et il le prend à bras le corps, ce rôle. L'optique est différente, le vécu est souvent très différent.
Cela demande l'adhésion non seulement du patient, mais aussi du chirurgien.
Du chirurgien et je dirais de toute l'équipe de salle d'opération. C'est vrai qu'une salle d'opération dans laquelle se déroule une hypnosédation, toute la salle entière a un autre type d'ambiance que quand un patient est complètement endormi, où là l'atmosphère est autre, parce que quelque part le patient est peut-être au centre au niveau technique, mais plus tout à fait au niveau personne. Là, tout le monde, dans la communication, dans la façon dont les gens interfèrent les uns avec les autres, et il y a quelque chose de différent, avec peut-être un ton de voix un peu plus doux pour que la voix porteuse de l'hypnose puisse se faire entendre par le patient tout au cours de l'intervention. Souvent, on va toucher le patient, soit lui tenir la main pour qu'il puisse faire des signaux et montrer en cours de route comment les choses se passent pour lui, soit une main sur le front si j'ai pas ses mains disponibles à cause de la position due à l'intervention. Donc le contact est différent. Souvent, on met un petit panneau sur les portes. Les gens qui entrent dans la salle vont entrer doucement, vont aller plus près des personnes pour leur causer, afin justement de laisser libre cours à l'hypnose, qu'elle ne soit pas perturbée par d'autres sons, d'autres dialogues.
Edith Brandao-Farinelli a parlé de patient actif, presque acteur de sa propre opération. Ouais. C'est quand même tout le contraire de ce qu'on imagine quand on dit hypnose.
Mais voilà, c'est le terme c'est le problème de quand on imagine ou du fantasme autour de l'hypnose, parce que l'hypnose n'est pas un état de sommeil, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou paradoxalement, puisque le terme lui-même, à l'origine, son origine grecque, ça signifie sommeil. Or, ce serait même plutôt le contraire, je dirais, un état de conscience modifié, certes, mais néanmoins, effectivement, très actif.
Et est-ce que ça marche sur tout le monde ? Enfin, on teste les candidats à l'hypnose avant ?
Alors, pas forcément, sauf s'ils le demandent. En fait, le critère absolu, c'est la motivation du patient.
Tout patient qui en émet le souhait, je serais partante pour pratiquer une hypnosellation avec lui, sauf s'il entre dans certaines contre-indications qui sont rares. Hein. Un patient qui ne peut pas se concentrer, un patient qui est décompensé au niveau d'une maladie psychiatrique ou des choses beaucoup plus basiques, un patient dont je ne parle pas la langue, que je ne vais pas pouvoir comprendre, ou un patient sourd. Là, je ne peux pas pratiquer l'hypnose. Maintenant, quelqu'un qui a une capacité de concentration normale, dont je parle et comprends la langue, et qui vient vers moi en disant « Voilà, cette intervention, mon chirurgien m'a dit que c'est praticable sous l'hypnose. J'ai jamais fait, je ne sais pas si je suis capable, mais ça m'intéresse, ça m'interpelle. » Je vais dire « Oui ». Et je ne vais pas pratiquer de tests d'hypnotisabilité. Il y en a qui ont été développés, mais on n'a pas montré que ça ait vraiment une utilité. Et l'effet de surprise peut aussi jouer en notre faveur. Donc pour rassurer le patient chez qui je ne vais pas faire d'hypnose avant, c'est toujours sur le côté, ben écoutez, oui, ça marche, c'est bien. Oui, vous amenez tout ce qu'il faut, vous amenez votre confiance, vous amenez votre envie. Je ne vous propose pas de test. Sachez que si ça ne se passe pas comme on veut, on peut toujours partir sur une sédation ou une anesthésie générale. Parce que je suis votre hypnotiste, mais je suis anesthésiste. Ça, souvent, ça a un effet très rassurant. Et dans notre pratique ici, on n'a jamais eu besoin pour l'instant de changer de technique en cours de route. Les gens motivés font des gens très hypnotisables.
Combien d'anesthésistes ici pratiquent l'hypnose au HUG ?
Actuellement, on est 4 sur 100 médecins dans le service d'anesthésie.
Et alors vous, pour poser une question peut-être plus personnelle, vous en tant que médecin, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui dans votre pratique quotidienne ?
Alors ça m'apporte énormément. Les hypnosédations, donc l'hypnose amenée à l'intérieur du bloc opératoire pour entourer une chirurgie à la place d'une anesthésie, ça pour l'instant c'est anecdotique, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer dans la suite. Par contre, ça m'apporte tous les jours autour de l'anesthésie plus technique que je peux donner, dans la façon dont je parle à mon patient, dans la façon dont je vais amener l'anesthésie plus technique que je vais pratiquer. Que ce soit une anesthésie complète ou une anesthésie partielle. Je vais aussi entourer mes gestes techniques, par exemple pour une loco-régionale. Quand on endort juste un membre, je vais beaucoup plus parler à mon patient et d'une autre manière que ce que je faisais avant ma pratique de l'hypnose.
Ouais, 4 anesthésistes hypnotiseurs sur 100, ça fait quand même pas beaucoup. Est-ce que, Lucille, est-ce qu'on sait combien d'opérations sous hypnose sont faites au total par an ou HUG, puisque c'est là qu'on est ?
J'ai pas réussi à avoir le chiffre exact ou officiel du nombre d'opérations sous hypnose pratiquées par an à l'hôpital cantonal de Genève. Mais ce que je sais, c'est que Edith Brandao-Farinelli en pratique, elle, environ 3 à 4 par an. Ils sont 4, alors je ne sais pas si c'est mathématique, mais bon, voilà, ça vous donne une idée.
Tout à fait. L'hôpital de Genève a été pionnier dans l'utilisation de l'hypnose comme agent d'anesthésie lors d'opérations chirurgicales. C'était dans les années 50. On va recevoir tout à l'heure le médecin qui a lancé ça à Genève. Il s'appelle Alain Forster. Ce sera après un peu de musique et les interprètes ont un nom prédestiné, c'est Scanner.
And there's nothing that hasn't been heard before. Now there's nothing that hasn't been heard before. On m'a promis le monde, dès la naissance on m'a menti. Depuis je tue chaque seconde, prenant le temps pour alibi. Et chaque seconde me tue. Je danse, je vacille, je tombe. L'horloge m'a abattu, flingue murale d'une vie amorale. Now there's nothing left to say. But I'll say it anyway. Now there's nothing left to say. But I'll say it anyway.
Ça s'appelle comment déjà? Ça s'appelle Volteface et c'est Scanner. Pas mal hein, pour un sujet qui se passe en salle d'opération, mais c'est écrit SKA, S-K-A, puis N-E-R-F, un peu plus loin. Oui, parce qu'on parle d'utilisation de l'hypnose en anesthésie. Ce matin, dans CQFD, et le premier qu'il a utilisé au HUG à Genève, ça a été le docteur Alain Forster, désormais jeune retraité. Bonjour Alain Forster.
Bonjour.
L'anesthésie sous hypnose, vous savez si ça se pratique ailleurs qu'au HUG?
Oui, je pense qu'une des pionnières qui a donné le crédit à cette notion d'hypnosédation, c'est Marie-Lise Fémonville, qui est professeure d'anesthésie à Liège actuellement, et qui a commencé après moi, mais qui a eu pu créer un contexte académique et institutionnel qui a permis de développer, surtout pour l'opération des thyroïdes, l'hypnosédation sur des grands nombres de patients, jusqu'à 400 patients, des études avec 400 patients.
Par année?
Sur les études, d'accord. Mais je sais qu'il y a plusieurs opérations sur la thyroïde, mais il y en a d'autres par semaine à Liège avec l'hypnosédation.
Vous l'avez introduite, donc l'hypnosédation à Genève. Ça a été difficile de faire entrer cette approche en salle d'opération?
Alors, l'hypnosédation, c'était Marie-Lise Fémonville. Moi, quand j'étais formé, c'était l'hypnose avec anesthésie locale, sans sédation. Et parce qu'on pensait que, justement, la limite entre l'anesthésie et l'hypnosédation était peut-être difficile à établir. Et c'est Marie-Lise Fémonville qui a pu établir cette limite et montrer des résultats très intéressants, que les patients restent moins longtemps à l'hôpital, qu'ils sont plus satisfaits de la chirurgie, qu'ils sont plus confortables après la chirurgie, et surtout, ce qui a interpellé même les autorités politiques, c'est qu'ils commencent leur travail 9 jours avant le groupe qui avait eu une anesthésie générale pour la même opération.
Ah oui, évidemment.
Quels sont les autres domaines de la médecine où l'hypnose peut aussi être utilisée? Parce que la chirurgie, c'est peut-être le plus spectaculaire, mais il y a d'autres domaines.
Oui, il y a d'autres domaines. Je pense que l'indication est plus liée, comme l'a dit d'ailleurs Edith Brandao, à la personnalité ou à la motivation des patients plus qu'aux situations médicales. En tant que médecin somaticien, médecin anesthésiste, moi, les grands deux axes d'indication sont les peurs et les douleurs. Vous voyez que ça couvre un grand champ de la médecine.
On l'utilise pour les grands brûlés, au CHUV par exemple, pour les soins, voilà, aux grands brûlés.
Tout à fait. Alors le CHUV, alors c'est là où j'avais pu instaurer, il y a très longtemps maintenant, à la fin des années 70, l'hypnose pour le soin des brûlés, pour les pansements. Ça leur permettait d'éviter plusieurs anesthésies générales par semaine, ça leur permettait de mieux s'alimenter. Et tous les groupes qui pratiquent l'hypnose pour les brûlés montrent des résultats cliniques améliorer. Et par la suite, le centre des brûlés s'est déplacé au CHUV et grâce au professeur Maître Berger, une infirmière qui suit ses patients, qui est Maryse Davadan, les brûlés sont systématiquement, on leur propose l'hypnose au CHUV et il y a une étude récente qui a montré que de nouveau, alors sur, c'était pas une étude randomisée, c'est-à-dire que c'est une étude qu'on a comparé l'hypnose à une série de patients sans hypnose qui était historique, mais de montrer de nouveau que ces patients-là avaient moins d'anesthésie générale, qu'ils s'en sortaient mieux, qu'ils avaient moins besoin de médicaments forts pour assurer leur confort, comme la morphine, et que de nouveau, au niveau coût, parce qu'actuellement on parle que de ça en médecine malheureusement, et aussi ils économisaient, je crois, 19 000 francs par patient brûlé. Des choses comme ça.
Alors, docteur Alain Forster, c'est quand même intéressant parce que on sait que l'hypnose est apparue dans le milieu médical, voilà, au milieu du 19e siècle. D'abord Charcot qui l'a utilisé à la salpêtrière, puis qui l'a très vite abandonné. Ensuite Freud a emboîté le pas à Charcot, mais il a aussi abandonné l'hypnose. Elle est tombée un peu dans les oubliettes de la médecine. Dans quelles circonstances est-ce qu'elle a finalement refait surface dans ce domaine?
Elle a refait surface, je pense que malheureusement, dans les temps de guerre, une des études qui a frappé le monde scientifique et médical de cette époque, c'est l'étude de Esdale, qui était un médecin chirurgien pendant la guerre des Indes, et qui a décrit plus de 300 interventions très importantes avec l'hypnose, en hypnose. Et ceci a donné une espèce de stimulation pour cette pratique, surtout qu'à l'époque, tous les anesthésiques qui ont été développés par la suite, à la fin du 19e, étaient des agents explosifs. Alors, vous voyez qu'en temps de guerre, c'est pas très pratique. Et donc, je pense que les temps de guerre ont été un facteur favorable, parce qu'on n'avait pas assez d'anesthésistes, les produits n'étaient pas performants, et donc l'hypnose a repris un peu de ces lettres de noblesse-là. Et je dirais plus récemment, c'est Milton Erickson, dans les années pendant la guerre du Vietnam, dans les années 65-80, qui a redonné aussi une lettre de noblesse à l'hypnose au niveau alors psychiatrique, pour les traumatismes psychiques cette fois, tous ces soldats qui rentraient avec des traumatismes psychiques de la guerre du Vietnam.
Ouais, on va vous retrouver dans quelques minutes, Alain Forster, pour évoquer sans doute ces sujets. Mais il y a une question quand même, Lucille, qui se pose maintenant, c'est dans quelle mesure l'hypnose retient-elle l'attention des chercheurs, en particulier des neurologues et des neurobiologistes ?
Alors, les études ne sont pas nombreuses, mais elles existent. Depuis les années 90, certains scientifiques ont tenté de comprendre comment l'hypnose agissait sur notre cerveau, mais ils avaient finalement peu d'outils pour le faire. Ce qui change donc la donne radicalement, c'est l'essor de l'imagerie médicale. Ce qui a permis au professeur Patrick Vuillemier, directeur du Centre interfacultaire de neurosciences de l'Université de Genève, de s'intéresser scientifiquement à cette question. Et vous allez l'entendre, bon, il se sent parfois un peu seul.
Étonnamment, il y a relativement peu de recherches en neurosciences sur l'hypnose. Il y a quelques recherches relativement ponctuelles au cours des dernières années. Et encore à l'heure actuelle, dans le monde médical, c'est souvent une pratique qui a la réputation d'être un petit peu loufoque. Moi-même, j'ai assez facilement des commentaires de collègues savants qui considèrent que la recherche sur l'hypnose est assez farfelue à quelque part. Et donc, en fait, les bases cérébrales sont assez mal connues et sont assez mal étudiées. C'est vrai que l'imagerie a cet avantage de pouvoir rendre les choses visibles. Le fait qu'on peut voir des modifications au niveau de l'activité de réseaux cérébraux rend d'une part la chose plus crédible, je dirais, pour des scientifiques sceptiques, mais aussi, et ça c'est la partie qui nous intéresse, donne une idée sur les mécanismes, de voir quelles sont les régions qui sont modifiées, comment elles interagissent entre elles. Et elles ont été surtout étudiées en fait en relation avec la douleur. C'est-à-dire, si on connaît maintenant assez bien les régions cérébrales qui sont activées par la douleur, par la perception de la douleur, on sait qu'il y a certaines régions qui vont s'activer d'autant plus qu'une sensation est douloureuse, on peut observer que ces régions-là vont s'activer moins lorsqu'il y a une suggestion d'analgésie, ou bien on peut suggérer l'inverse, c'est-à-dire on peut suggérer qu'une stimulation qui est indolore est en fait douloureuse, et dans ce cas-là, on voit les régions qui répondent à la douleur, qui en fait, malgré que la stimulation n'est pas douloureuse en soi, vont s'activer plus. Donc on a déjà un certain nombre de résultats qui montrent que la suggestion qu'on donne aux patients sous hypnose va influencer la manière dont le cerveau répond à la stimulation. Mais ça montre encore relativement peu les mécanismes. Et puis c'est peut-être un des aspects qui reste vraiment encore à creuser. C'est comment, en fait, ces modifications sont induites. Quels sont les mécanismes qui sont impliqués entre la suggestion et ces changements dans la perception ?
Si j'ai bien compris, Lucille, le professeur Patrick Vuillemier est l'auteur d'une recherche sur l'hypnose.
De plusieurs, mais en particulier une parue en 2009, une étude qui a mis en évidence des réseaux neuronaux spécifiques à l'état d'hypnose. Et pour y parvenir, les chercheurs ont placé des volontaires dans un scanner IRM et ils ont travaillé sur la suggestion de la paralysie d'un bras. Avec une question, est-ce qu'il y a une différence du point de vue de l'activité cérébrale quand le sujet imite une paralysie ou quand cette paralysie lui est suggérée par l'hypnose ?
Ce qu'on a pu observer, c'est que la paralysie, et ça c'est des choses qu'on a pu étendre dans d'autres domaines de l'hypnose, résulte probablement de l'action conjointe de deux phénomènes. Il y a d'une part un effet ou un phénomène attentionnel, c'est-à-dire en fait les régions du cerveau qui contrôlent l'attention, c'est-à-dire qui contrôlent ce à quoi vous payez attention, quelle est l'information sensorielle qui est sur laquelle vous vous concentrez. Les systèmes attentionnels sont extrêmement activés. Et à quelque part, concentre l'attention sur certaines sensations, sur un certain état du corps, et permettent en fait de se couper potentiellement de l'information qui viendrait de l'extérieur ou qui viendrait d'un membre. Vous pouvez imaginer que si vous vous concentrez votre attention sur une main, vous êtes un peu moins attentif à ce qui se passe sur l'autre main. Il y a une partie du cerveau qui permet de filtrer l'information et d'être moins perméable à ce qui vient de l'extérieur, ou même peut-être d'une partie du corps. Et en fait, en même temps qu'il y a ce filtrage, il y a certaines régions qui sont très impliquées dans la mémoire et dans l'imagination qui deviennent également très actives. Et ces régions qui sont importantes dans la mémoire sont des régions à l'arrière du cerveau qu'on appelle par exemple le cortex précuneus, dont on sait qu'il est très important pour l'imagination en général.
Oui, mais Lucille, l'imagerie permet de voir effectivement où le cerveau agit sous l'effet de l'hypnose, mais pas comment il agit.
Non, pas encore en tout cas, et c'est très excitant pour des scientifiques un tout petit peu motivés, car la recherche évidemment ne fait que commencer.
Je pense qu'on est encore, comme pour beaucoup d'autres aspects de la recherche sur le cerveau, mais dans le domaine de l'hypnose vraiment en particulier, encore vraiment très au début. Même dans le domaine de la douleur, par exemple, qui est un des domaines très étudiés et qu'on étudie aussi, où c'est très clairement efficace. Je veux dire, l'hypnose est utilisée en urgence dans beaucoup de milieux hospitaliers. On sait encore peu, en fait, comment est-ce que ça modifie les neurotransmetteurs qui sont, par exemple, tout à fait critiques dans la douleur ou le degré de modulation du système opioïde qui contrôle la douleur. Et ça, c'est des études qui sont en cours et que maintenant, on a les outils aussi pour voir comment est-ce qu'en fait, par la parole, en modifiant l'activité du cerveau, on arrive en fait finalement à faire que le cerveau, dans certaines régions très spécifiques, va moduler la libération de certains neurotransmetteurs pour changer la perception de la douleur. Et ça, c'est à mon avis un des aspects fascinants de ce domaine.
On va remercier Patrick Villemier, directeur du Centre interfacultaire de neurosciences de l'Université de Genève, et on va retrouver Alain Forster, anesthésiste jeune, retraité de ce même hôpital, qui a lancé l'hypnose à l'hôpital il y a bien longtemps déjà. Alain Forster, mais pourquoi il y a si peu d'études finalement sur l'hypnose et ses utilisations thérapeutiques?
Il faut se rendre compte que l'hypnose, la recherche scientifique en médecine est très complexe. Parce que si on reprend les propos du professeur Germont, on se rend compte que tout de suite, il pose des questions, quels sont les sujets, qu'est-ce que ça veut dire quoi, regarder la télévision, etc. Alors vous vous rendez compte, lorsqu'on teste des médicaments, il y a le placebo, on compare un médicament à un placebo, ce qui est donc une substance qui apparaît comme un médicament, mais sans avoir de chimie active dans ce médicament. Et en hypnose, c'est quoi le placebo? Donc c'est difficile déjà de comparer avec les standards actuels scientifiques, de faire des études qui sont jugées valables par les scientifiques. Ça, c'est la première chose. Après, l'hypnose, c'est quelque chose, c'est une relation. On n'a peut-être pas assez parlé, j'allais dire tout ce qu'a dit Edith Brandao, mais elle n'a pas parlé, peut-être la relation est quelque chose d'essentiel. Comment mesurer la relation? Comment mesurer la motivation des patients? Puis quand on dit hypnose, c'est l'apprentissage de l'auto-hypnose, donc on n'a pas non plus évoqué, c'est que le patient arrive à se prendre en charge seul. Chez les patients brûlés, après quelques séances de soins, de pansements accompagnés par un hypnotiste, après le patient fait ça tout seul. Et donc comment mesurer tout ça et le comparer à quoi? Et ça pose des problèmes, ça pose des questions méthodologiques qui ne sont pas solubles. Et je pense que c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles l'hypnose ou les travaux sur l'hypnose ne sont pas publiés dans les bons journaux, parce qu'il y a des biais scientifiques.
Alors, on peut comprendre pourquoi c'est difficile dans le domaine de la recherche. Par contre, moi, ce qui m'étonne, pour avoir eu la chance de bénéficier de ce type d'approche, c'est quand on voit les bénéfices qui sont démontrés, finalement, et l'efficacité de cette méthode, c'est le peu d'intérêt également du corps médical. Beaucoup de médecins même ignorent cette pratique, ne savent même pas qu'elle existe et qu'elle est efficace.
Oui. Alors c'est vrai, c'est un vrai problème, comme l'a dit le professeur Villemier, ça passe quand même pour être farfelu, c'est pas scientifique, on veut une médecine basée sur l'efficience, ou peut-être la relation, on veut pas passer de moins en moins de temps avec les patients, il faut donner des médicaments, il faut avoir des techniques pour que les gens restent le moins longtemps possible à l'hôpital, et l'hypnose, on va un peu en contresens, c'est-à-dire c'est la relation qui est importante, mais c'est un investissement au départ, puisque par la suite, le patient pratique lui-même l'hypnose, donc il fait de l'auto-hypnose. Donc c'est un investissement. L'exemple du brûlé est assez parlant, puisque après 5-6 fois que le patient est accompagné pour ses pansements, par la suite, il fait ça tout seul, sans anesthésiste, sans personne qui l'accompagne. Mmh. Donc il y a un gain. Mais c'est difficile à calculer. Et, voilà. Et ça gêne, parce que ça apparaît pas comme scientifique.
Mais ni comme un axe médical en soi, en fait, finalement. Ouais.
Voilà.
Pourtant, c'en est un.
Ouais. Voilà.
Merci beaucoup, Alain Forster. Je rappelle que vous êtes anesthésiste jeune retraité des HUG. Lucille Solari, juste encore un mot.
Oui, alors, le docteur Forster a évoqué également l'aspect plus psychologique, c'est-à-dire l'utilisation de l'hypnose dans un cadre, dans le cadre de la psychothérapie. On n'a pas eu le temps aujourd'hui d'en parler, mais si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, je vous renvoie à l'entretien que j'ai réalisé avec Catherine Henley, qui est psychologue à Genève et qui utilise l'hypnose comme outil en psychothérapie. Cet entretien est en ligne sur rts.ch/CQFD.
Merci à Alain Forster, merci à Patrick Vieux-Mieux et merci aussi à Lucille Solari dont nous vous proposions ce dossier sur la sédation par l'hypnose en nouvelle diffusion.
CQFD sur la première.